VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Crise burundaise au Burundi, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès ce lundi ont dit non en présence des représentants de la communauté internationale à l'envoi de troupes de l'Union africaine au Burundi, comme l'avait demandé le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation panafricaine. Les autorités législatives burundaises affirment que la paix règne au Burundi et qu'un génocide est impossible dans ce pays voisin du Rwanda. La crise actuelle fait suite au troisième mandat contesté du président Pierre Nkurunziza. Le reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Les parlementaires et sénateurs burundais se sont réunis ce lundi en congrès, une situation qui arrive très rarement, sauf à des circonstances prescrites par la loi. Le président de l'Assemblée nationale a profité de l'occasion pour accuser certains pays et lobbies étrangers comme la Belgique qui veulent se substituer aux représentants du peuple. Tous les représentants du peuple qui se sont exprimés ont affirmé que ces 5000 militaires africains, s'ils arrivent à Bujumbura, voudront créer une milice et le chaos. Tous ont répété à qui veut l'entendre que la paix est totale au Burundi à 88%, comme aime bien le déclarer le président de la République, Pierre Nkurunziza. Mais l'ancien opposant Agathon Rwasa, qui a rejoint les institutions, a une position assez mesurée et équilibrée. Il a déclaré que même si une colline du Burundi connaît des problèmes sécuritaires, le problème peut être national, car le Burundi est une même nation indivisible. Il a indiqué qu'il faut faire attention, car cette insécurité peut se propager dans d'autres localités du pays. Agathon Rwasa a rappelé qu'il n'y a pas de citoyen burundais vivant dans n'importe quel quartier ou colline du Burundi qui peut être considéré comme un citoyen de seconde zone. Rappelons aussi que l'Assemblée nationale et les Sénats burundais ont été élus sans les partis politiques de l'opposition. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Rwanda, le président Paul Kagame a remercié aujourd'hui ses concitoyens pour avoir participé massivement au référendum constitutionnel qui pourrait lui permettre potentiellement de continuer à diriger le pays jusqu'en 2034. Mais dans son discours annuel sur l'état de la nation, il n'a toujours pas précisé s'il se représenterait aux élections de 2017. En Centrafrique, plus qu'une semaine avant l'élection présidentielle qui aura lieu le 27 décembre, un scrutin couplé aux législatives est crucial pour la sortie de crise en Centrafrique. Sur place, les candidats s'activent en vue de convaincre les électeurs. Nous retrouvons à Bangui notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Ce lundi, la campagne électorale entre dans sa deuxième semaine et dernière ligne droite avant le premier tour du 27 décembre. Les candidats qui étaient jusque-là peu visibles sur la scène multiplient depuis ce week-end des meetings et des caravanes à travers la ville de Bangui. Les quartiers généraux ou comités de soutien se rivalisent en instruments musicaux, créant un véritable vacarme, surtout la nuit dans les quartiers. Parmi les 30 candidats à la présidentielle, 4 seulement ont le courage pour battre campagne dans certaines villes de l'intérieur du pays, contrôlés pour la plupart par des groupes armés. Difficile pour l'instant de faire un pronostic, car certains électeurs que nous avons interrogés ne savent pas encore qui voter pour mettre à la tête du pays. Alors que la campagne électorale est à sa deuxième semaine, 9 candidats aux législatives recalés par l'Autorité nationale des élections ont été autorisés ce dimanche par le tribunal administratif à revenir dans la course. Les différents candidats ont jusqu'au 25 décembre à minuit pour tenter de convaincre les quelques 2 millions d'électeurs centrafricains attendu aux urnes le dimanche prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Mali, le Tchadien Mahamat Saleh Anadif, aux commandes de la MINUSMA, la mission des Nations Unies sur place. Il prend la fonction le 14 janvier 2016. L'ancien chef de la diplomatie tchadienne est conscient de l'ampleur du travail qui l'attend, en particulier pour faire appliquer l'accord de paix d'Alger. On écoute le prochain patron de la MINUSMA.
On ne peut pas faire la paix au Mali sans les Maliens. Cet accord a été signé par le Malien. Donc je vais vraiment m'investir pour que son application puisse voir le jour. Maintenant, parallèlement à ces acteurs qui ont signé l'accord d'Alger, il y a ce qu'on appelle les groupes armés terroristes, qui, eux, n'entrent pas dans ce schéma-là. C'est les gens qui ont opté pour une guerre asymétrique, dont souvent on ne connaît même pas l'objectif. C'est des gens qui sont tout simplement imbus par la notion de tuer, la notion de terroriser, la notion de détruire. Mais la MINUSMA fera tout pour combattre ces groupes armés et terroristes afin que des actes comme celui de l'hôtel Radisson Blue ne puissent pas se produire.
Mahamat Saleh Anadif, le prochain patron de la MINUSMA au Mali. Nouveau drame de la mer pour les migrants qui essaient de se rendre en Europe par la Méditerranée à partir de la Libye. Selon les gardes-côtes libyens, 2 migrants sont morts noyés, 10 sont portés disparus et 108 ont été secourus aujourd'hui alors qu'ils tentaient d'aller en Europe à bord d'une embarcation qui a fait naufrage au large de la ville libyenne de Janzour. Les rescapés ont été transférés à la base navale de Tripoli où les autorités leur ont fourni des secours, déclare le colonel libyen Ashraf al-Badri. Et toujours concernant la Libye, l'émissaire de l'ONU pour la Libye a indiqué que des contacts avaient été établis à Tripoli avec des responsables de la sécurité, notamment des milices, en vue d'installer le gouvernement d'union nationale dans la capitale. Martin Kobler, qui a pris ses fonctions à la tête de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL, en novembre dernier, a indiqué que le général italien Paolo Serra était en charge des négociations avec les responsables de la sécurité à Tripoli. Et puis, en Tunisie, un an après sa défaite électorale, l'ex-président Moncef Marzouki a lancé un nouveau parti politique. L'ancien chef de l'État tunisien a expliqué à l'AFP que le gouvernement est totalement impuissant face à la situation catastrophique du pays. On passe maintenant au football. Joseph Blatter, président de la FIFA depuis 1998, et Michel Platini, président de l'UEFA depuis 2007, suspendu pour 8 ans de toute activité liée au football en raison du fameux paiement controversé de 2 800 000 euros qui les lie. La charge de corruption n'a pas été retenue contre les deux hommes par le tribunal interne de la FIFA, qui les juge coupables en revanche d'abus de position, de conflit d'intérêts et de gestion déloyale. Platini écope d'une amende de 80 000 francs suisses, plus élevée que celle de Blatter, 50 000 francs suisses. Maître Thibaud Dallès, avocat de Michel Platini, dénonce le cynisme procédural de la justice interne de la FIFA, car les motivations de sa suspension ne seront communiquées à son client qu'au cours de la première moitié de janvier 2016. Pour une analyse du dossier, Nicolas Pino a joint le journaliste François Tomazo. Il est l'auteur du livre « L'imposture du sport ».
Le point rassurant dans cette affaire, c'est que la commission d'éthique de la FIFA, mise en place par Sepp Blatter lui-même et qu'on avait beaucoup critiqué à l'époque de la révélation du rapport du procureur Garcia sur cette corruption à la FIFA, cette commission d'éthique est allée jusqu'au bout du processus en condamnant deux personnalités de la politique du football mondial. Donc je pense qu'il y avait aussi peut-être derrière cette décision l'envie de démontrer une forme d'indépendance, même si c'est peut-être un peu excessif, un peu tardif aussi, c'est peut-être le signe que les choses vont dans le bon sens.
Quelle est la suite selon vous ?
C'est d'autant plus difficile à dire qu'on ne sait pas du tout qui va succéder maintenant à Blatter ou à Platini, puisque le successeur entre guillemets désigné de Blatter semblait être Platini, qui se présentait un peu comme le chevalier blanc et celui qui allait amener justement ce renouveau. Ce ne sera pas lui. Ça va beaucoup dépendre de la personnalité du prochain président de la FIFA. Pour l'instant, on ne voit pas dans les candidats qui se sont déclarés jusqu'à présent de renouvellement fondamental et de moralisation des choses.
En France, Michel Platini bénéficie d'un soutien très fort de la part des médias. Est-ce justifié selon vous ?
Bah non, s'il était anglais ou italien, tout le monde trouverait ça normal. C'est vrai que Platini bénéficiait en France d'une image, c'est un peu un saint civil, hein, avec, par le joueur qu'il a été, par l'influence qu'il a eue comme capitaine de l'équipe de France, puis ensuite comme entraîneur, et puis ensuite comme organisateur de cette grande messe qui était Coupe du Monde 98. Voilà, c'est un intouchable de quelque part. Et donc la France a été très choquée. Maintenant, il y a eu un procès, il a été jugé, il est passé une première fois devant le TAS, il va sans doute y repasser, continuer son combat judiciaire. Voilà, malheureusement, un procès a eu lieu qui a été fait dans les formes par une commission indépendante qui semble offrir toutes les garanties de justice équitable. On n'est pas devant un tribunal dictatorial. Ce sont des gens qui ont été mis en place justement pour le parvenir lui-même, pour leur indépendance et pour moraliser le football. Il est un peu étrange que Michel Platini se retourne contre des juges dont quelque part il avait souhaité la mise en place. Au final, il a quand même fait une erreur, et cette erreur, il la paye.
François Tomazo, journaliste et auteur du livre « L'imposture du sport ». Et puis cette nouvelle de dernière minute, Soudan du Sud, une délégation militaire des ex-rebelles de l'ancien vice-président Riek Machar arrive aujourd'hui à Djouba, la capitale, dans le cadre de la mise en application de l'accord de paix conclu en août. Le gouvernement du président Salva Kiir se dit prêt à l'accueillir. Son arrivée confirme les progrès dans l'application de l'accord de paix, déclare le ministre de l'information Michael McWay. Et pour terminer, Miss Philippines a été élue Miss Univers 2010 dimanche à Las Vegas dans le Nevada, mais la soirée s'est terminée dans la confusion en raison d'une bourde d'un animateur. C'est d'abord Miss Colombie qui l'avait désignée comme Miss Univers avant de choisir Miss Philippines.
Voyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.